la parole pour effectuer quelque chose de technique mais important. Baruch HaShem, nous avons ouvert déjà depuis le début du mois un centre d'études juives qui a sa place au Machon Meir de Jérusalem. Ça s'appelle le centre Meir d'études juives. Nous donnons comme but de diffuser en français la Torah d'Eretz Israël, aussi bien en Israël qu'en Gola, évidemment dans un esprit sioniste, dans la continuité de l'enseignement de nos maîtres, le Rav Kook et Manitou. Parmi ces activités, vous êtes présents à une d'entre elles. Nous participons avec le CNEF et le Centre Yaïr à cette soirée, qui d'ailleurs existe depuis déjà assez longtemps. Dans le cadre de la Azkara de Manitou, qui aura lieu le dimanche 29 octobre, en cours d'après-midi, il y aura également des activités au Machon Meir avec projection de films sur l'enseignement de Manitou. C'est destiné essentiellement au public jeune. Il y aura également des cours qui seront publiés sur Internet, dans le petit hebdo, dans le reste de la presse. Également des séminaires spéciaux, aussi bien en Israël qu'en France. Il y a également un Shabbat organisé à Neve Ilan pour le Shabbat de Parashat Vayetse. Et donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement d'être attentif aux différentes publications de nos activités, qui, je l'espère, iront en grandissant pour toutes les bonnes choses du monde. Voilà. On peut commencer ? Bon. Voilà. Notre sujet d'étude de cette année ressemblera par certains aspects à notre étude de l'année dernière. Pas parce que j'aime me répéter, mais c'est parce que les événements demandent de plus en plus que nous parlons de certaines choses. Il s'agit ici, puisque c'est la soirée du roi David, dans les Ushpizim, nous avons la soirée le septième jour de Sukkot, Hoshana Rabba, c'est également le jour dédié à la personnalité de David Ameler. Eh bien, donc, nous devons parler de ce que représente le roi David dans la tradition d'Israël, qu'est-ce qu'il représente pour nous, quels sont les enseignements que nous avons attirés de sa personnalité. Je tiens à rappeler que David Ameler était tout d'abord un roi, c'est-à-dire un chef politique. Et c'est en ce sens qu'il est particulièrement intéressant, parce que tous les grands tzadikim qui ont dirigé qui ont été les fondateurs de notre nation, qui ont été les inspirateurs de notre spiritualité, qui nous ont donné la Torah, certains d'entre eux avaient une fonction politique, tels que par exemple Moshe Rabbeinu, qui était également roi, mais c'est chez le roi David que l'on voit le parachèvement du projet de la Torah d'Israël à travers la dimension politique chez un roi qui est, si l'on veut, l'archétype du roi idéal. Par exemple, quand le Rambam parle du Mashiach, du roi Messie, eh bien, il en parle comme une sorte de réplique, en mieux d'ailleurs, du roi David. Mais enfin, si on veut savoir qu'est-ce que c'est que la royauté d'Israël, enfin le régime politique selon la tradition hébraïque, eh bien, il faut s'inspirer de la personnalité du roi David. Il est très intéressant de voir, par exemple, que lorsque la Bible nous parle des prophètes, quand elle nous présente un prophète, elle nous indique le temps du règne de quel roi c'était. Par exemple, prenons une phrase très classique, Hazon Yeshayahu ben Amotz, vision d'Isaïe, fils d'Amotz, Asher Haza al Yehuda Virushalayim, qu'il a visionné sur Yehuda et Jérusalem, Bimer Uziyahu, Yota Mahaz Yechizkiyahu Malche Yehuda. Autant, on dit en français, d'Ozias, Yotam, Achaz et Ézéchias, roi de Juda. C'est-à-dire que quand on va définir la nature du prophète, on va se référer au dirigeant politique de l'époque. C'est le dirigeant politique qui va donner la coloration de l'inspiration prophétique et non pas le contraire. C'est-à-dire c'est le prophète qui dépend du roi, ce n'est pas le roi qui dépend du prophète. En effet, d'ailleurs, d'après la halakha, lorsqu'un roi et un prophète se rencontrent, eh bien, c'est le prophète qui se prosterne et non pas le roi. Effectivement, parce que les prophètes viennent nous transmettre la volonté du Créateur concernant une conjoncture historique déterminée. Or, la conjoncture historique, eh bien, elle dépend de l'état de la politique. Il y a, on peut voir d'ailleurs la même chose quand on parle d'Abraham Avinu, le fondateur de quoi, au fait ? On a l'habitude de dire, eh bien, que Abraham, c'est le fondateur du monothéisme. Bon, il suffit de lire quelques passages de la Bible, surtout dans les parachutes de Bereshit et de Noar, pour se rendre compte que c'est faux. C'est-à-dire, ce n'est pas Abraham qui a fondé le monothéisme. Le monothéisme était déjà répandu antérieurement à Abraham. Du temps d'Abraham, il rencontre un autre monothéiste de très grande envergure du nom de Malchizedek. On voit très bien, d'ailleurs, dans la famille d'Abraham, que le monothéisme était déjà connu. Et nulle part la Torah nous dit qu'Abraham a brisé des idoles. Vous connaissez cette belle histoire qu'on raconte dans le Midrash ? Bien, elle est racontée dans le Midrash. Elle est certainement vraie, historiquement parlant, qu'Abraham a brisé les idoles. Mais il est intéressant de voir que la Torah n'a pas jugé nécessaire de nous parler d'Abraham en tant que briseur d'idoles. Abraham est tout d'abord un fondateur de nations. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, c'est pour lui dire « Abandonne le pays où tu vis ». Et la tradition nous dit « Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ce pays où il vivait ?» Eh bien, il faisait de la religion. Et Dieu lui dit « Abandonne tout ça, maintenant tu vas faire de la politique. » C'est-à-dire, tu vas devenir une grande nation, tu vas aller vers une terre. Donc, une nation et un territoire, c'est une entité politique. On peut dire qu'il y a un projet d'Israël qui est un projet qui concerne la vie politique, ne serait-ce que parce que c'est la politique qui est le levier le plus important qui fait bouger des choses dans notre monde. Il est capital de comprendre la manière dont la politique est envisagée par la Torah à travers le prisme, évidemment, de la personnalité du roi David. Et se prête à cela de manière très appropriée la fête de Soukhot. En effet, la fête de Soukhot... Au fait, vous entendez bien ? D'accord ? Bon, ça va. Bon. La fête de Soukhot, une des manifestations de cette fête, c'était une fois tous les 7 ans, c'était la lecture en public de la Torah dans le temple de Jérusalem devant l'ensemble du peuple assemblé, hommes, femmes et enfants. Contrairement à la mitzvah habituelle qui est de faire monter tous les hommes adultes au temple 3 fois par an, une fois tous les 7 ans, on amenait non seulement les hommes, mais également les femmes et les enfants, entendre la lecture de la Torah dans le temple de Jérusalem. C'était, si vous voulez, une sorte de réplique du Matan Torah. La Torah était à nouveau donnée à l'ensemble du peuple, une fois tous les 7 ans, une année après la Shemitah, au lendemain de la Shemitah, et la lecture était faite par le roi. Elle n'était pas faite par le Kohen Gadol. Vous vous rappelez certainement que dans le Seder HaAvoda de Yom Kippour, lorsque le Kohen HaGadol sort du Kodesh HaKodashim, on lui amène un Sefer Torah et qu'il lit la Torah devant le peuple assemblé dans le temple. C'est finalement pas plus de 2-3 000 personnes. Mais quand c'est devant tout Israël, eh bien ce n'est pas le Kohen Gadol, ce n'est pas le grand prêtre qui va lire la Torah, c'est le roi. Et d'ailleurs, dans la cérémonie, lorsque le Sefer Torah est amené, lorsque le roi va lire la Torah, c'est le Kohen Gadol qui présente le livre de la Torah au roi d'Israël. Maïmonide nous dit, c'est parce que c'est le roi qui est le délégué de Dieu pour faire entendre la parole du Créateur. Shliach ha'el le'ashmia et dvar Hashem, dit-il. Et ça veut dire à quel point c'est éminemment politique, ce projet de la Torah. On peut dire que pendant plusieurs milliers d'années, en fait, nous avons été empêchés de faire ce que nous voulions faire. Tout un problème, d'ailleurs, dans cette sanctification de la politique. On risque effectivement de tomber dans beaucoup de caricatures de ce projet. Et je voudrais donc étudier avec vous ce soir quelques dangers, ce ne sera pas une liste complète, ce sera une liste partielle des dangers qui menacent l'entité politique en Israël. Tout d'abord, le danger le plus évident, c'est l'exploitation. C'est-à-dire, on peut, étant donné que le roi d'Israël dispose d'un pouvoir extrêmement étendu, il peut utiliser ce pouvoir à des fins immorales. Et on peut dire que toute l'histoire des dynasties royales d'Israël, c'est l'histoire justement de la tension qu'il y a entre la tentation de la dictature et à chaque fois les réprimandes des prophètes qui viennent ramener le régime politique à sa place. Il y a d'ailleurs, ça va si loin qu'il y a même une opinion selon laquelle le roi d'Israël ne serait pas véritablement un roi et que la règle qui est que Dina di Malchuta Dina, c'est-à-dire la règle du roi, c'est la règle, n'est pas valable quand il s'agit des rois d'Israël. C'est l'opinion d'un des grands maîtres parmi les Tosafistes, c'est Rabbeinu Tam, qui dit que le roi d'Israël n'est pas véritablement un roi. Dans quel sens? Eh bien, il dit c'est très simple, parce que un roi des nations peut, s'il le veut, exiler les citoyens de son pays de leur terre. Mais le roi d'Israël ne peut pas le faire. Et donc, ça veut dire que son pouvoir n'est pas un pouvoir absolu. Il n'a pas le droit d'exproprier les habitants du pays de leurs biens. Et d'ailleurs, l'archétype de cela, eh bien, c'est la vigne de Naboth. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une limitation d'ordre moral, finalement, à la toute-puissance du pouvoir politique. Mais d'un autre côté, il est évident qu'on ne peut pas entreprendre, si vous voulez, de diriger un État si on ne donne pas la force de le diriger. Et la force politique, d'une certaine manière, est toujours aveugle. Elle est violente et elle ne tient pas toujours compte des sensibilités individuelles. On peut dire que l'expression maximale de la puissance politique, c'est la guerre. Lorsqu'on fait la guerre, eh bien, on ne tient pas tellement compte ni des sensibilités des combattants que l'on envoie au combat, ni tellement même de la population contre laquelle on combat. Et donc, là se pose à nouveau le problème. Est-ce que c'est vraiment, on peut dire, le Omanutan chez Israël, est-ce que c'est vraiment notre métier à nous, les Juifs, de faire la guerre? Alors, bon, vous connaissez bien la fameuse expression de Yitzhak Avinu qui est Akol kol Yaakov vayadaim yedea Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains d'Ésaü. Mais attention, la voix de Yaakov, c'était vraiment la voix de Yaakov quand il parlait à son père, eh bien c'était vraiment sa voix, tandis que les mains d'Ésaü qu'il avait, ben, ce n'étaient pas les siennes, c'était des mains empruntées. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on emprunte aux nations la capacité d'exercer la violence en politique. C'est la guerre, donc on prend les mains d'Ésaü, mais on sait que c'est un emprunt. Alors peut-être qu'il serait idéal qu'un jour les mains, on fasse une greffe, je ne sais pas, que ça devienne un peu plus sérieux, pas simplement de l'emprunt. Mais enfin, pour l'instant, pendant un certain temps de l'histoire, eh bien, à chaque fois qu'Israël veut faire la guerre, eh bien, il emploie pour cela les moyens des nations. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, on voit très bien que lorsque Tzahal a été fondé, ben Tzahal a été fondé par des Juifs qui avaient été officiers dans des armées des Goïms. D'ailleurs, le Zohar le dit très bien, de manière très belle. Vous connaissez cette fameuse histoire que quand Dieu a voulu donner la Torah, eh ben, il l'a proposée à différentes nations. Il l'a proposée à Ishmaël et puis il l'a proposée à Esav. Et chaque fois, bon, Ishmaël a dit on n'en veut pas parce qu'il y a écrit dans la Torah Lotignov et ça on ne peut pas. Lotignov, ça veut dire tu ne voleras point. Et donc les enfants d'Ishmaël n'ont pas pu accepter de ne pas voler. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais et les Béné Edom, les descendants d'Ésaü, quand Dieu leur a proposé la Torah, dit ah non, on ne peut pas parce qu'il est écrit tu ne tueras point, et ça, on ne peut pas, c'est notre métier de tuer, puisqu'il est écrit Al-Harbecha Tirye. Il faut absolument qu'on tue. Donc on ne peut pas accomplir l'otir tsar. Et le Zohar raconte ça. Bon, ça, c'est dans le Midrash. Mais le Zohar raconte qu'en fait, ce dialogue n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de révélation directe de Dieu ni aux enfants d'Ishmaël ni aux enfants d'Ésaü, mais c'est un entretien qu'il aurait eu avec leur ange tutélaire, ce qu'on appelle Sarah Uma. Et donc, le Zohar raconte, de manière un peu humoristique, le dialogue entre Dieu et l'ange tutélaire d'Ésaü. Et alors, quand Dieu vient proposer à l'ange tutélaire d'Ésaü la Torah, lui, très embêté, ne peut pas dire directement non, parce qu'il sait qu'enfin c'est la Torah de Dieu, on ne dit pas non au Créateur du monde. Il dit, écoute, la Torah que tu donnes est vraiment merveilleuse, mais c'est tellement bien, c'est tellement beau cette Torah que tu veux donner, bien donne-la à Israël. C'est-à-dire, avec cette idée derrière la tête, que la Torah va abêtir les Juifs, va les rendre incapables de confronter l'histoire, et donc donne-la aux Juifs, c'est très bien pour eux. D'ailleurs, vous voyez comment le Zohar reprend, d'une certaine manière, la théologie chrétienne, qui dit que la Torah a été donnée aux Juifs comme une malédiction. Et pour encourager Dieu à accepter de donner la Torah à Israël, il dit, écoute, je suis tellement content que tu donnes cette Torah à Israël que je vais leur offrir un cadeau. Et le cadeau qu'il offre, c'est son épée. Il donne son épée. On n'entend pas ? Ah bon ? Non, il donne son épée à Dieu pour qu'il la donne à Israël. C'est à nouveau cette idée que la violence en politique, c'est un emprunt. Mais vous savez que ce n'est pas si simple que ça, selon un enseignement du Rav Kook, cette idée que la puissance politique et la violence politique seraient un emprunt en Israël, ça établit quand même une dichotomie entre le Kodesh et le Chol, entre la sainteté et le profane. Et selon le Rav Kook, c'était l'enseignement... C'était la chita, si vous voulez, de Yosef, le fils de Yaakov, mais que chez le roi David, ce n'était pas le cas. Chez le roi David, il y avait unité des deux. C'est-à-dire le Kodesh et le Chol, on peut dire même la capacité d'exercer même la violence en politique et la moralité inhérente à la sainteté faisaient une seule et même chose. Et si vous voulez, ça revient à cette phrase que nous disons lors de la bénédiction de la lune, c'est David, Melech Israël, Hay Vekayam, David, roi d'Israël, il est vivant et il est... Kayam, ça ne veut pas dire existant. En hébreu moderne, ça veut dire existant, mais en hébreu ancien, Kayam, ça veut dire fidèle. Il est fidèle. Hay Vekayam, il est vivant et fidèle. Ça veut dire que souvent, le pouvoir politique en Israël doit accomplir des actions qui semblent, disons, dans l'immédiat, opposées à la sensibilité morale, mais qui, en fait, relève de la fidélité la plus grande à la morale parce qu'il s'agit d'un idéal qui dépasse l'immédiat, qui fait des calculs au niveau de plusieurs générations. En faisant, je pense à nouveau à cette épître du Rav Kook, un élève qui a été bouleversé par la violence des guerres dans la Bible. Vous savez que quand on lit la Bible, on voit que c'est pas très conforme à la convention de Genève, ce qui se passe là-bas, aussi bien d'ailleurs du côté de nos ennemis que de notre côté à nous. Et alors cet élève avait été bouleversé par cela. Et le Rav Kook lui dit, oui, mais écoute, si on n'avait pas été violent à l'époque, eh bien, finalement, c'est les barbares qui l'auraient emporté. Il faut toujours faire un calcul au niveau de la méta-histoire, enfin au niveau en tout cas de la longue histoire. C'est vrai que dans certaines situations, nous avons dû appliquer la violence dans tout ce qu'elle a de redoutable et même d'effrayant, mais c'était indispensable si on veut que l'histoire avance. Et pour que des valeurs morales puissent finalement s'accomplir, eh bien parfois il faut passer également par cela. Et refuser d'appliquer la violence quand elle est nécessaire, surtout par rapport à des barbares, finalement c'est une démission de la morale. Bon, alors c'est facile à dire ces choses-là, évidemment, il y a beaucoup de dérapages qui peuvent être que l'on peut faire à partir de cela, mais il faut comprendre qu'effectivement, c'était ça le projet du roi David. David Melech Israël, Hay Vekayam. Je me rappelle une phrase de Lévinas, bon, c'est bien connu dans Vie de liberté, qui disait « Que nous importe, je ne dis pas ça avec précision, que nous importe que la Bible soit si rude, si finalement c'est une école de douceur ?» C'est-à-dire, c'est finalement ce peuple qui a fait les guerres contre les Cananéens, contre Amalek, etc., qui finalement a été l'apôtre de la morale dans l'histoire. Et là, je voudrais entrer un peu plus dans le détail des dangers qui guettent le politique en Israël. Tout d'abord, un exemple très important de notre histoire. C'est merveilleux, quand on a une longue histoire, c'est bourré d'exemples. Alors on peut prendre des tas d'exemples sur toutes les gaffes qui ont été faites. Il suffit simplement de les étudier pour ne pas les refaire. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les dirigeants israéliens ne font plus d'erreurs, puisqu'ils ont étudié la Bible, et donc ils ont tous les exemples devant les yeux. Là, un exemple un peu post-biblique, c'est l'histoire des Asmonéens, les Hashmonaïm, Maccabées. C'est très intéressant de voir comment est-ce que le royaume des Hashmonaïm a été fondé. Ben, il a été fondé en réponse à une persécution religieuse. C'était, on peut dire, pratiquement la première persécution religieuse de l'histoire. Lorsque les Grecs, les hellénisants de l'époque, ont essayé d'empêcher les Juifs d'accomplir leur mitzvot, leur rite, d'accomplir également le culte du temple, eh bien, les Juifs se sont révoltés. Ils ont été dirigés par les Kohanim, c'est-à-dire cette partie du peuple qui étudie la Torah, qui est responsable de la transmission de la Torah. C'était les rabbins de l'époque. Ce sont les rabbins qui ont fait la guerre. Ce sont les rabbins qui ont fondé l'État et qui l'ont dirigé. Eh bien, ce que ça a donné, c'est un État hellénistique. Vous savez comment sont les noms de... C'est intéressant d'étudier les noms des rois parmi les Hashmonaïm. Première génération, c'est des très beaux noms. Yehuda, Shimon, Yohanan, Yonatan. Ce sont des beaux noms. Et puis après, ça donne sur Yehuda Aristobulus. Bon, c'est pas exactement la même chose. Mais enfin, il y a quand même le nom hébreu en premier. Et puis après, vous continuez une nouvelle génération... Ça vous donne Alexander Yanaï. Alors, le nom grec devient déjà le premier, mais il y a quand même un nom hébreu. Et puis après, vous tombez sur Horkanos, Aristobulos, Antigonos. Et ça veut donc dire que très rapidement, finalement, après une génération, cet État qui était fondé sur la pureté religieuse et culturelle est devenu un État hellénistique. Mais pourquoi ? Eh bien, je pense qu'il est indispensable de revenir à l'enseignement bien connu du Ramban à ce propos. C'est parce que ce sont des prêtres qui ont dirigé l'État. C'est-à-dire, si vous demandez aux Hashmonaïm, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ? Ah ben, ce qui nous intéresse dans la vie, c'est le Kodesh. C'est les choses saintes. Ah oui, alors pourquoi vous dirigez l'État ? Ah ben, parce qu'il faut bien qu'il y ait un État, mais vous en faites pas. Comme nous sommes très religieux, eh bien, l'État sera très religieux. C'est ce qu'on appelle des apprentis sorciers. Parce qu'un État ne se dirige pas comme une yeshiva. Dans une yeshiva, tout est très simple. Ce sont tous des tzadikim. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais dès que ça passe dans l'État, eh bien, l'État, c'est d'autres règles. Et imaginez par exemple qu'un combat politique soit dirigé par des rabbins. Ils vont s'imaginer que le public qu'ils doivent diriger sont des élèves de yeshiva. Ils vont comprendre également que le pouvoir contre lequel ils combattent, par exemple, ce sont aussi des élèves de yeshiva, et que tout va s'arranger dans le Beit HaMidrash en bougeant le pouce. Alors, vous comprenez, c'est ça le problème. Le roi David, lui, ne serait pas tombé là-dedans. Lui aurait compris qu'un État, ça se conduit à la manière d'un État, et donc il n'aurait pas laissé les rabbins diriger l'État. Ça ne veut pas dire que les rabbins n'ont pas à dire quelque chose. C'est le roi d'Israël est fidèle à l'enseignement des rabbins. D'après Maïmonide, le roi d'Israël n'a pas le droit d'être karaïte, par exemple. Il n'a pas le droit d'être un apikoros, un hérétique. Mais finalement, sa vision des choses ne sera pas inspirée du monde mental du Beit HaMidrash. Il a son Beit HaMidrash à lui. Intéressant de voir, par exemple, dans la Halakha, qu'il y a une règle qui est que le roi d'Israël doit écrire un Sefer Torah. Pour le lire, d'ailleurs. Tous les jours. Mais, d'après Maïmonide, ça ne tient pas la route, parce que vous savez que tout juif doit s'écrire un Sefer Torah. C'est-à-dire, la 613e mitzvah, c'est que chaque homme d'Israël écrive un Sefer Torah. Donc, en quoi est-ce que le roi est différent des autres ? Eh bien, la réponse est très simple. Il a deux Sefer Torah. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de deux Sefer Torah ? Ben pour lire dans l'un et dans l'autre. Mais dans l'un et dans l'autre, il y a écrit le même texte. Alors, on pourrait lui dire de lire deux fois dans le même livre. Mais ça veut donc dire que le deuxième livre du roi d'Israël n'est pas comme le premier livre. C'est vrai que c'est le même texte, mais il le lit différemment. Quand il lit dans le premier Sefer Torah, comme tout bon juif, c'est parce qu'il est religieux. Il est roi d'Israël, il met les téphilines tous les matins, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il mange kasher. Et tout le reste. Hein. Et, mais quand il lit son deuxième Sefer Torah, il portera d'autres lunettes. Ça sera en tant que roi d'Israël qu'il va le faire, il le lira différemment. Si, pour vous convaincre, je vais vous citer un exemple, un tout simple exemple. Est-ce que Sam est là, au fait ? Non, Sam n'est pas là. Bon, tant pis, c'est pas du quai. Bon. Un tout simple exemple. Non, c'était pour lui demander un verre d'eau, mais tant pis, c'est pas grave, je vais me débrouiller sans. Mais non, pas un clean quand même. Ah bon, d'accord. Je m'en voudrais d'avoir fait lever un rabbin, non. Cher confrère. Où est-ce qu'on en était ? Ah oui, tout simplement, il y a un verset dans la paracha de Kitetsé. C'est à propos du témoignage. Enfin, ce n'est pas écrit en toutes lettres. Je veux dire le verset comme ça en hébreu. « Lo yumtu avot albanim uvanim lo yumtu alavot ishbechet o yumatu » C'est-à-dire, ce n'est pas très clair, ça veut dire « Lo yumtu avot albanim » Ça veut dire quoi ? Eh bien, d'après la Gemara, ce verset veut dire « Un père ne sera pas mis à mort à cause du témoignage de son fils » ni un fils sera mis à mort à cause du témoignage de son père. C'est-à-dire, c'est la grande règle de la halakha qui est que... Merci. Que les... Mais ce n'était pas la peine, le Rav Kling en amène un aussi. C'est la grande règle qui est que les proches ne peuvent pas témoigner au tribunal. C'est-à-dire, je ne peux pas témoigner ni en faveur ni en défaveur d'un proche de ma famille. C'est comme ça que la Guémara interprète ce texte. Ce qui est surprenant, c'est que ce verset de la Torah est cité textuellement dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, à propos du comportement du roi Amatsia. Amatsia était le fils du roi Yoash, qui s'était fait assassiner. Amatsia prend le pouvoir après l'assassinat de son père. Quand il devient fort, eh bien, il décide de punir les assassins de son père. Il les fait tuer. Et le texte dit « Vet bene hamakim lohemit » Mais il n'a pas mis à mort les fils des assassins. Pourquoi ? Ben, « Ki kakatuv batorah besefer Moshe asher tziva Hashem les morts » Pour, en fidélité au verset de la Torah de Moshe qui disait « Lo yumtu avot albanim uvanim lo yumtu alavot » Donc, on voit bien que Amatsia a lu le texte différemment de la Guémara. Ça veut dire que l'interprétation de ce verset, telle qu'elle est citée dans la Guémara, c'est l'interprétation pour le tout juif, quoi. C'est pour le commun du peuple. Mais le roi a sa lecture à lui dans le texte de la Torah. C'est une idée d'ailleurs qui a été développée très longuement, enfin très largement, par le natif de Vologine dans son commentaire sur la Torah. Bon, alors si vous voulez, donc il y a ce premier problème. C'est que des prêtres dirigent l'État, c'est-à-dire qu'ils vont croire que la vie politique, c'est une vie de yeshiva, or ce n'est pas le cas. Il y a un autre problème, beaucoup plus grave, un autre danger qui guette la royauté en Israël. Et là, je voudrais vous citer un texte concernant le roi Ahav. Ahav, qui était roi du royaume d'Israël, pas de Yehuda. Sa capitale était à Shomron, Samarie. Et dans le livre des rois, on nous raconte, au chapitre 20, la guerre qu'il a faite dans le nord avec les Araméens, ou les Syriens, si vous voulez. Les Araméens... Et alors, il y a pas toute une série de guerres. Et lors d'une des guerres, il y a une victoire, dans le Golan d'ailleurs, éclatante du roi Ahav contre Ben-Hadad, qui était le roi de Syrie. Et la réaction des Syriens de l'époque, c'est de dire « Oui, ils ont gagné la guerre parce que leur dieu est un dieu de montagne. Elohe Harim Hashem. » Eh bien, nous allons faire la guerre dans la plaine et là-bas, ils vont perdre. Effectivement, plus tard, il y a une bataille organisée entre les deux armées dans la plaine, et finalement, c'est quand même les Hébreux qui l'emportent. Et le prophète vient voir le roi et lui dit, avant la bataille, il dit, puisque les Araméens ont dit que Dieu allait perdre dans la bataille dans la plaine, eh bien tu verras que vous allez gagner quand même. Alors, ce qui se passe, c'est assez extraordinaire. Il y a un chiffre énorme, 100 000 tués chez les ennemis. Les ennemis, c'est les goïms. Et il y a le reste de l'armée araméenne se réfugie dans la ville de Afek. Là, il y a probablement un tremblement de terre qui fait que la muraille s'effondre sur l'armée ennemie. Les ennemis, c'est les Araméens, je rappelle toujours. Et finalement, c'est le Ben-Hadad est pratiquement écrasé. Il s'enfuit, il se cache dans une petite maison, c'est-à-dire une chambre à l'intérieur d'une autre chambre, dans une des maisons de la ville de Afek. Il voit qu'il n'en a plus pour tellement longtemps, les soldats d'Israël vont le tuer. Alors, les conseillers qu'il a autour de lui lui disent, écoute, sors de ton bunker, nous allons envoyer un délégué au roi d'Israël pour demander ta grâce. Et c'est là-bas, il dit de cette manière, « Shamanu ki malchei Israël ki malchei chesedhem ». Nous avons entendu dire que les rois d'Israël sont des rois de grâce. Alors, ils envoient effectivement une délégation. Ça ressemble aux bourgeois de Calais. Et ils disent au roi d'Israël, « Avdecha ben-Hadad amar techi nafshi ». Ton serviteur ben-Hadad demande à rester en vie. Réaction du roi d'Israël, Achav, « Odenu hay ?» Comment ? Il est encore vivant ?« Ahi hu ?» C'est mon frère. Alors, Ben-Hadad est amené devant le roi d'Israël, qui le fait monter sur son char, avec qui il conclut un accord de paix. Il le renvoie avec déshonneur dans la ville de Damas. Très joli, n'est-ce pas ? Eh bien, juste lorsque le roi s'apprête à revenir dans sa capitale, il est intercepté sur sa route par un prophète qui lui dit « Kohabar Hashem, ainsi parle l'Éternel, « Ya'an asher shallahta et ish hermi miyad, puisque tu as renvoyé de tes mains mon captif, venatati, il s'agit du roi d'Aram, venatati, nafshecha tachat nafsho ve'amcha tachat amu. Eh bien, je mettrai ton âme à la place de la sienne et ton peuple à la place du sien. » C'est-à-dire, c'est vengeur, quoi. C'est-à-dire, le prophète est très mécontent, enfin, c'est la parole de Dieu qui est très mécontente de ce comportement. Effectivement, plus tard, il y a à nouveau une guerre avec les Araméens et là, Achav est tué dans le combat. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui lui a pris à Achav d'avoir gracié son ennemi, alors que c'était le moment de l'écraser totalement ? Et eh bien, c'est très simple. Ce qui a causé cette chute de Achav, c'était justement ce qu'il appelait, enfin ce qu'il pouvait penser être de la moralité. Il a considéré que laisser en vie son ennemi était un acte de morale, de la morale. Et la raison pour laquelle il l'a pensé, ben c'est très simple, c'est parce qu'il était juif. Enfin, il n'était pas juif, il était hébreu. Et les Hébreux ont des bonnes midot. La Gemara le dit. Baishanim, Rahmanim, Gomle Chassadim. Si on veut savoir si quelqu'un est juif ou pas, la première chose qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il est timide ? Est-ce qu'il est miséricordieux ? Est-ce qu'il est charitable ? Voilà, c'est ça. Baishanim, Rahmanim, Gomle Chassadim. Ce qui en soi est une bonne chose. Tout le problème est de savoir. Quelles sont les valeurs que l'on a le sentiment de défendre ? Et, effectivement, dans l'état de Achav, Ahab, finalement, était asservi à la culture de son ennemi. Il n'avait pas le sentiment d'une supériorité morale sur son ennemi. Il se disait, c'est vrai que je lui fais la guerre, mais c'est mon ennemi politique. Mais ce n'est pas que je représente un éthos, si vous voulez, un ensemble de valeurs supérieures à celui de mon ennemi. Donc, à partir du moment où il est en état de faiblesse, je redécouvre qu'en vérité, c'est mon copain. Et donc, je ne me sens pas le droit moral d'en finir avec lui. Et on peut dire que c'est de cette manière, on peut dire que Ahab avait raison. Effectivement, il ne valait pas plus que Ben-Hadad. Mais ce qu'aurait dû faire Ahab, il aurait dû valoir plus que Ben-Hadad. C'est-à-dire, quand on n'a pas le sentiment que l'on part au combat au nom de valeurs qui méritent d'être défendues et qui méritent d'être diffusées par la suite, effectivement, on ne se sent même pas le droit de gagner la guerre. Voyez-vous. Et c'est pour ça, finalement, que l'État d'Israël de l'époque, l'État du Nord, le royaume du Nord, a finalement disparu de l'histoire parce que la culture à laquelle ils adhéraient n'était pas la culture authentique d'Israël. Et quand on n'a pas le sentiment de venir au nom de quelque chose de sérieux, eh bien on ne peut pas gagner la guerre, même si on a la meilleure armée du monde. Parce que dans ce cas-là, on est porté plutôt à mettre au devant ses intérêts personnels. Je ne sais plus d'ailleurs à quoi je ne fais pas allusion, comme disait Manitou, mais il peut avoir des problèmes. C'est-à-dire, au lieu d'être le pionnier qui part à la guerre en chaloutz, eh bien, finalement, on est mu par ses intérêts personnels. Il y a d'autres dangers qui sont, par exemple, la rivalité qu'il peut y avoir entre des représentants d'une théorie politique qui a fait son temps et qui s'oppose à l'évolution vers un régime meilleur. C'est très, très classique, par exemple, c'est toute la rivalité entre le roi Shaoul et son gendre David. Alors, la royauté de Shaoul représente une royauté qui a son sens, qui représente quelque chose à un certain moment de l'histoire, et puis vient un moment où cette royauté a fait son temps. Un des signes évidents de ce qu'elle a fait son temps, eh bien, c'est son incapacité justement à en finir avec Amalek. Mais vous savez, on ne peut pas vaincre Amalek. Évidemment, il n'y a pas d'ailleurs de solution militaire au conflit. Il est évident que pour vaincre Amalek, eh bien, il faut se retrouver autour de la table de négociation. C'est ce que pensait, d'une certaine manière, Shaoul. C'est-à-dire, on ne peut pas demander sérieusement au pouvoir politique d'en finir avec le terrorisme. D'ailleurs, vous voyez bien, nous n'avons pas d'ennemi Amalek, nous n'avons qu'un ennemi, le terrorisme. C'est ça ? C'est-à-dire, ce n'est pas une entité déterminée, c'est un comportement qui est considéré comme l'ennemi. C'est-à-dire, dès qu'on commence à conceptualiser l'adversaire, alors on est incapable de vaincre l'adversaire puisqu'il n'existe pas. En tout cas, on peut dire que c'est ça qui a été la cause de la chute du roi Shaoul. Et le prophète, d'ailleurs, lui annonce dès le départ, tu sais, tu as mal fait, tu vas être remplacé par quelqu'un qui fait mieux le travail que toi. Et à partir de ce moment-là, Shaoul, qui est un tzaddik, va tout faire pour empêcher David de régner, même au détriment de sa puissance politique à lui. Il va employer l'armée d'Israël pour se mettre à la poursuite de David, alors que David lui est fidèle. David ne cesse d'enseigner qu'il faut être fidèle à Shaoul. Dans ses yeshivot à David, dans ses mérinotes, on ne cesse de dire « le roi Shaoul, c'est le roi d'Israël ». Et comme par hasard, c'est Shaoul qui va s'acharner contre son plus fidèle sujet pour essayer d'en finir avec lui. C'est incroyable. D'ailleurs, on nous raconte par exemple comment est-ce qu'il prend avec lui 3000 soldats dans le désert de Judée. Vous savez ce qu'il veut dire de prendre 3000 soldats dans le désert de Judée pour se mettre à la poursuite d'un individu? Il faut le faire quand même. Et dans le livre de Shmuel, on nous raconte quelque chose de très très surprenant. Un moment, finalement, Shaoul sait que dans tel endroit, David se cache, et il entoure le lieu où se cachait David. Et il ne restait plus que quelques minutes pour David pour vivre. Il savait que très bientôt, on allait lui enlever tous ses maharazim, tous ses yishuvim, etc. On savait que, il savait que c'était fini. Et le texte dit « Ve David nehpaz el Shaoul ». Nehpaz, David était effrayé par Shaoul. Et le Midrash met ça en rapport avec un verset du livre de Tehilim qui est « Ani amarti behovzi kola adam kozev ». J'ai dit dans mon effroi que tout homme est mensonge. À qui David pensait-il à ce moment-là? Au moment où David pensait que c'en était fait de lui, qu'il ne lui restait plus que quelques minutes à vivre, il s'est dit « Même le prophète Samuel est un menteur. » Parce que le prophète Samuel m'a dit que je deviendrai roi d'Israël, et bien voilà ce qu'il en est de moi. Et puis, arrive un ange qui dit, un ange, écrit Malach, Malach ça veut dire un envoyé, mais ça peut être un ange aussi, qui vient voir en toute vitesse le roi et lui dit, les Philistins ont attaqué le pays. Alors il laisse tomber tous ses projets, il emmène l'armée pour faire la guerre avec les vrais ennemis d'Israël. Enfin, ceux qui finalement, malgré tout, sont ses vrais ennemis, au lieu que ce soit David. Il y a des situations comme ça, très dangereuses, où effectivement, David risque d'être... l'état à venir, l'état supérieur de la vie politique, est mis en danger par des forces, qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage politique, réactionnaires, qui continuent un certain schéma de comportement politique qui était valable en son temps, mais qui est devenu caduque. Et puis... D'ailleurs, on peut voir d'ailleurs que ça a commencé déjà beaucoup plus tôt, parce que l'ancêtre du roi David a déjà eu ce genre de problème. D'ailleurs, on voit qu'il y a une tendance permanente à la maison de David d'être au bord de l'extermination. Un exemple très simple de cela, l'ancêtre du roi David, c'était la Moabite Ruth, Ruth à Moavia. Cette fameuse Ruth à Moavia était une descendante de Eglon, roi de Moab. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que Eglon, roi de Moab, qui était quand même un ennemi d'Israël, mais enfin, qui avait du respect pour le Dieu d'Israël, a été assassiné. Il a été assassiné par un dirigeant hébreu du nom de Ehud. Ce Ehud en question était gaucher, ce qui était rare à l'époque. Donc on pensait qu'il se servait de la main droite. On pensait qu'il était de droite. Et il s'est servi de cette faculté, justement, quand il est entré dans le palais de Eglon, pour tirer le poignard qu'il avait mis du côté droit, parce que d'habitude, on cherche, les fouilles se font du côté gauche, puisque le poignard, s'il existe, se trouve à gauche. Et finalement, il s'est servi de sa main gauche pour tuer l'ancêtre du roi David. C'est-à-dire, on voit déjà qu'il peut avoir également donc une politique... C'est-à-dire quoi, passer de gauche à droite, c'est-à-dire dévier en fait, qui va employer le reste de sa puissance, à la manière de Ehud, pour empêcher David de naître. Et puis, il y a quand même un troisième personnage très intéressant qui, lui aussi, va essayer d'empêcher David de régner. Il s'agit... ni plus ni moins, du géant Goliath. Il faut que je retrouve ça. Alors... Je suis désolé, j'aurais dû chercher ça plus tôt. Je prends sur moi toute la responsabilité du temps que vous perdez. Bon sang. Mmh. Merci Seigneur. Voilà, c'est là. C'est dans le livre de Shmuel, le premier livre de Shmuel, le chapitre 17, au verset 7. Alors là, on nous dit le discours de Goliath lorsqu'il fait la guerre à Israël. Vaya'amod vaikra el ma'arachot Israël, vayomer lahem, lama tetzeu la'aroch milchama. C'est-à-dire, il se tient seul devant toute l'armée d'Israël et il dit, pourquoi est-ce que vous... sortez faire la guerre. Allo Anochi à Plishti, Vatem Avadim le Shaoul. Puisque moi je suis le représentant des Philistins et que vous êtes les serviteurs de Shaoul, Beru Lachem Ish Veyered Elai, choisissez un homme qu'il fasse la guerre contre moi, enfin, qu'il fasse le combat contre moi. Et là il propose donc le combat singulier. Imuchali Lachem Iti Veikani Vainu Lachem Lavadim. S'il peut m'abattre, alors nous serons vos esclaves. Vimani ou Khalo Vikitiv, mais si moi je peux l'abattre, Vitem Lanula Vadim, Babatem Otan. C'est-à-dire qu'il propose un combat singulier à la place de la guerre. Le peuple est très effrayé parce que c'est un géant qui fait peur à tout le monde. Et donc tout le monde a peur de lui. Et là, il y a ici une paraphrase du Targoum. Le Targoum, il s'agit de la traduction de Yonatan Ben Uziel, qui est le traducteur de la. Des Nevi'im, et il rajoute ici tout un discours de Goliath. Anahu Goliath Pilishta de Mingat, Tikratle, Tren Benaeli, Kahaner, Hofni ou Finchas. C'est moi, le Philistin de Gat, qui a tué les deux fils de Eli, qui est Hofni et Finchas, Ushveti Yataron, qui amad Hashem, et c'est moi qui a pris en captivité l'arche d'alliance de Dieu. Et que j'ai emmené, c'est moi qui ai emmené l'arche d'alliance dans le pays des Philistins pendant 7 mois. Vechol krav ou krav d'ahava leon les Philistins en afek bereshrela. Et à chaque fois que les Philistins font la guerre, c'est moi qui les emmène à la guerre. Unsahna bekrava, c'est moi qui gagne dans les batailles. Urmina ktilin ka'afra de'ara. Et j'amène des victimes, nombreuses comme la poussière de la terre. Et pourtant, les Philistins ne m'ont pas encore nommé comme leur chef. Alors, donc, vous voyez qu'il s'agit ici donc, d'un ennemi d'Israël, un Philistin, qui veut faire la guerre à Israël, veut gagner la bataille pour acquérir le pouvoir parmi dans son peuple. Ve'atun ben Israël magvura avad lechon Shaul Barkish de min divata. Quelle grande chose a fait pour vous Shaul fils de Kish de Giva? De manitun yate malka il avechon pour que vous l'ayez nommé roi. Imgvar kvaru yachod ve'abed krava imi. S'il est un héros, donc il fasse la guerre contre moi, et s'il est faible, qu'il envoie quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire qu'il y a parfois une exploitation de la faiblesse des dirigeants d'Israël par les ennemis. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une tentation, il y aurait une tentation de laisser Shaoul perdre la guerre. Eh bien, c'est là que le roi David se révèle dans sa grandeur. Par rapport aux ennemis extérieurs, eh bien, nous sommes tous frères, nous faisons la guerre, même si le dirigeant politique est un faiblard comme Shaoul. Ça aussi, c'est un enseignement qu'il faut apprendre. Il y a, si vous voulez, il y aurait donc un grand enseignement, si vous voulez, à tirer de tous ces passages bibliques et historiques, c'est le sérieux de la réflexion politique en Israël. C'est-à-dire, c'est un sujet de Torah. Il ne s'agit pas simplement de dire donner le pouvoir à des hommes spirituels, à des religieux ou autres. Il s'agit qu'il y ait d'abord une transformation de la conception fondamentale de la politique et des valeurs que cette politique défend. Et c'est pour cela qu'il serait bon, par exemple, que dans notre société soient fondés des groupes de réflexion qui influenceraient le monde politique. Si vous voulez, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Par exemple, vous savez qu'en Israël, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, le pouvoir politique est lui-même dirigé par des groupes idéologiques. Et que ce sont les idéologues qui font que, finalement, la politique va être dans tel ou tel sens. Il y a, par exemple, aujourd'hui, quelques groupuscules en Israël qui sont ceux qui définissent, finalement, les options fondamentales de la vie politique. J'entends par là, par exemple, une institution extrêmement minuscule, mais qui est très influente parce qu'elle a beaucoup d'argent. Il s'agit de ce qu'on appelle le Mahon Israeli les Démocratia. En français, l'Institut israélien pour la démocratie, qui explique qu'est-ce que c'est que la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est qu'il faut penser certaines choses qui, évidemment, vont toujours dans la même direction, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Il est important, il devient urgent, que dans le Bet HaMidrash, une réflexion de ce genre se développe. Il y a d'ailleurs des initiatives qui existent, auxquelles toute personne peut participer. Il faut également être éveillé aux enjeux nouveaux qui se posent à Israël, au peuple juif, dans le cadre de son évolution de Géoula. Parce que si on admet que l'État d'Israël, or c'est vrai, c'est une des concrétisations des espérances messianiques. Effectivement, pendant des milliers d'années, nous avons vécu en exil, et puis on se disait, ben, quand est-ce que viendra enfin le temps où nous serons indépendants des goïms et nous aurons notre État à nous. Ça fait partie du projet messianique. Il est important de savoir à quel moment de la Géoula nous nous trouvons. Par exemple, il y a aujourd'hui une crise du sionisme. C'est une chose bien évidente, on se rend compte que la société israélienne est en perte d'idéaux. Ça veut donc dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cette société est à la recherche d'un nouvel idéal. Et cet idéal, il faut savoir le formuler. Il est évident que nous sommes aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la... Pour comprendre vers quoi on va, il faut toujours comprendre qu'est-ce qui se cache dans la maladie. Si aujourd'hui, il y a une crise de l'esprit national, c'est au nom du cosmopolitisme que ça se fait. Eh bien, le cosmopolitisme, avec tout ce qu'il a de mal, cache en lui également une recherche de l'universel. Aujourd'hui, il devient de plus en plus urgent que l'État d'Israël sache qu'il a une fonction universelle à remplir. Et cette fonction universelle, eh bien, elle doit être étudiée. Par exemple, je veux dire, quelqu'un m'a dit une fois que viendra un jour où un homme des nations, un goy, viendra à Jérusalem et viendra dans une yeshiva et dira aux élèves et aux rabbins, j'ai écrit toute une œuvre musicale extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus ? Alors les élèves lui diront, écoute, j'y comprends pas grand-chose, mais le Rav Kook dit que c'est très important ce que tu fais, alors continue, c'est très bien. N'est-ce pas ? Vous comprenez qu'on ne peut pas continuer une étude infantile, c'est-à-dire qui ne serait centrée que sur la manière de s'acquitter des devoirs du Shulchan Aruch. Ce qui est très important, évidemment, on ne peut pas faire l'économie du Shulchan Aruch. Mais il est important de voir également ce que nous avons à dire aux nations, surtout qu'aujourd'hui, de la part des goyim, il y a un regain d'intérêt pour ce qu'on appelle la loi Noachid, et d'ailleurs de manière beaucoup plus large, il y aurait une recherche de l'inspiration spirituelle que ces goyim pourraient retirer d'Israël. Je pense que ça vaut la peine d'être étudié. Vous connaissez cet enseignement du Gaon de Vilna qui explique quand est-ce que l'État d'Israël doit être fondé. Vous savez que le Gaon de Vilna a calculé. Il a fait un calcul comme quoi l'État d'Israël devait être fondé en l'année 5708. Effectivement, ça s'est passé comme ça. 5708, c'est 1948 en date séculaire, comme on dit. Et il est intéressant de voir la manière dont ce calcul a été fait par le Gaon de Vilna. Maintenant, je tiens à préciser que lorsque le Gaon de Vilna, qui vivait il y a quand même plus de 200 ans, a fait ce calcul, il écrit « J'adjure le lecteur au nom du Dieu d'Israël de ne pas révéler cela. » N'est-ce pas ? Donc le calcul que je vais vous dire là maintenant, le Gaon de Vilna nous adjure de ne pas le révéler. Je tiens à rappeler que à Vilna, on raconte qu'il y avait deux rabbins qui ont révélé la manière dont le Gaon de Vilna avait fait le calcul et qui sont morts deux jours plus tard. Alors, le calcul, c'est de cette manière. Vous savez qu'on considère qu'il y a 6000 ans, ne vous en faites pas pour moi, il m'arrivera rien. Ce que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, donc il n'y a pas de problème. Et la raison pour laquelle on a le droit d'en parler maintenant, c'est parce qu'on est après les événements. C'est-à-dire, il y avait les événements avant, maintenant il y a les événements après, donc on peut en parler. C'est très simple. Si on considère, c'est-à-dire c'est un peu de la magie, mais c'est vraiment que ça marche comme ça. L'histoire, le cycle historique dans lequel nous nous trouvons est considéré comme étant de 6000 ans. Et chacun des millénaires de ces 6000 ans correspond à un des 6 jours de la création. C'est pas donc le premier millénaire, c'est-à-dire de l'an 1 à l'an 1000, eh bien c'était, ça correspondait au premier jour de la création du monde. Et etc. Et comme nous sommes aujourd'hui en l'année 5767, ça veut donc dire que nous sommes pendant le sixième jour de la fin, à cette période de l'histoire qui correspond au sixième jour de la création. Le Gaon rajoute, pendant les 500 premières années, il ne se passe rien, parce que ça correspond à la nuit, et or toute la création se faisait pendant le jour. Effectivement, si vous faites un survol de l'histoire, vous remarquerez quelque chose d'absolument remarquable, qui est que tous les événements importants et signifiants dans l'histoire se sont toujours produits dans la deuxième moitié de chaque millénaire hébraïque, pas dans la première moitié. Je vous le signe. Non, c'est vrai, hein, ce que je vous dis. Je ne raconte pas des blagues. À chaque fois, vous avez 500 ans où il ne se passe rien, 500 ans où il se passe beaucoup de choses. C'est toujours comme ça. Alors, donc, nous sommes dans la deuxième partie. Dans les 500 ans, il doit se passer quelque chose. C'est entre l'an 5500 et l'an 6000. Et le Gaon de Vilna dit, c'est très simple, il faut couper ces 500 ans en 12 parties. Ça fait donc 12 heures de la journée. La Guémara nous raconte comment, pendant le sixième jour, le premier homme a été créé. Eh bien, pendant la première heure, alors, si vous coupez 500 ans en 12 parties, ça vous donne combien? Ça donne 41,6. C'est-à-dire, tous les 41 ans et 8 mois, on passe une heure. Une heure de méta-histoire. Et la Guémara nous dit que pendant la première heure du sixième jour, eh bien, la poussière du premier homme a été assemblée de l'ensemble du monde. Lors de la deuxième heure, ses organes ont été formés. Lors de la troisième... Non. La deuxième heure, pardon, sa poussière a été pétrie. Lors de la troisième heure, ses organes ont été formés. Lors de la quatrième heure, un souffle lui a été insufflé. Et lors de la cinquième heure, il s'est levé. Eh bien, si vous faites le calcul, quand est-ce que ça tombe la cinquième heure du sixième millénaire? Eh bien, ça vous donne 5708. C'est pour ça que le Gaon de Vilna dit, si tu... lis bien ce texte de la Guémara, tu sauras quand est-ce que viendra notre délivrance. Voilà. Alors ça, c'est ce qui s'est passé en 5708. Maintenant, depuis combien de temps est passé? Pas mal de temps. Ça veut dire que nous sommes dans quelle heure maintenant? Dans la septième, n'est-ce pas? Nous sommes dans la septième heure. Alors là aussi, on a le droit de révéler, puisqu'on est arrivé à la septième heure. C'est-à-dire, si vous me demandez ce qui va se passer dans la huitième, j'ai pas le droit de vous dire. Mais si vous me demandez ce qui se passe dans la septième, j'ai le droit. Le Gaon de Vilna dit, une fois que c'est arrivé, on peut le dire. Eh bien, lors de la septième heure, dit le Midrash, le premier homme s'est uni à sa femme. C'est là qu'a été formé le premier couple. Ça veut dire qu'il y a... C'est quand on parle de la femme d'Israël, de quoi on parle? Hein? Les deux? Non, la Shrina, si vous voulez, c'est le principe féminin dans la divinité. C'est soit sa terre, soit sa Torah, n'est-ce pas? Or, pour que se forme le premier couple dans l'histoire, il a fallu d'abord les couper en deux. Il a fallu... C'est parce que d'après le Midrash, le premier homme était déjà mâle et femelle, était hermaphrodite. Non, il était androgyne, pardon. Il était androgyne, une drôle de manière d'ailleurs. C'est surtout d'ailleurs dans le mythe platonicien également, que le premier homme était à la fois homme et femme. Et donc, la formation du premier couple, c'était de le couper en deux. Pour le couper en deux, il a fallu l'endormir. Ça veut donc dire quoi? Souvent un enseignement du Rav Kook, il faut que le peuple juif s'endorme. Il s'endort et il oublie qu'il a un principe féminin, qui est soit la Torah, soit Eretz Israël. Et puis il doit après se réveiller, et lorsqu'il se réveille, alors c'est en pleine conscience qu'il comprend qui est son principe féminin, c'est-à-dire soit la Torah, soit Eretz Israël. C'est-à-dire que si tout allait de soi, si la Torah et Eretz Israël étaient des choses qui allaient de soi, eh bien, jamais on n'aurait pu comprendre ces choses-là de manière totalement consciente. Donc il fallait d'abord s'endormir, perdre la Torah, perdre Eretz Israël pour le retrouver. Et c'est intéressant de voir que la septième heure commence par un sommeil. Effectivement, depuis qu'a commencé la septième heure, eh bien, nous avons eu des accords d'Oslo. Il y a eu un sommeil. Il y a une tentative de plus en plus accélérée de séculariser absolument, par la voie de la législation, l'État d'Israël. Donc, vous voyez que le Gaon de Vilna, il a raison. Ça commence par un sommeil. Et puis, il y a un moment, il faut quand même se réveiller. Cet été, il s'est passé quand même quelque chose qui a réveillé. Un des dirigeants israéliens à la Knesset a dit, dans un discours qui a fait beaucoup de bruit, « Nous venons de nous réveiller de notre sommeil. » Et je vous assure qu'il n'a pas lu ce texte du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire un mariage. Mais non, pour que ce mariage réussisse, vous savez, la différence qu'il y a entre la relation qu'un homme a envers sa femme et la relation qu'un enfant a envers sa mère, c'est que la relation envers la mère est une relation naturelle. C'est imposé par la nature. Je suis le fils de ma mère, que je le veuille ou non. Mais je suis le mari de ma femme parce que je le veux bien. Et donc, il y a ici une dimension morale dans le mariage. Ça veut donc dire que cette entreprise de transformation de la société israélienne doit être placée sous le signe de la morale. Et donc, nous avons effectivement beaucoup de leçons de morale à apprendre. Il serait intéressant de voir, par exemple, que tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne, c'est justement poser des problèmes de moralité. Par exemple, le problème de la moralité par rapport au code éthique de l'armée. L'éthique militaire, ça existe, ça n'existe pas, de quelle manière ça existe? Ce sont des questions qui étaient brûlantes, dans tous les sens du terme, lors du dernier conflit, de la dernière guerre. Des problèmes de moralité au niveau de la classe dirigeante, des classes politiques, ce sont devenus des problèmes réels, posés consciemment et ouvertement sur la scène politique. Ça veut donc dire que nous sommes en train d'évoluer. Et là, je pense qu'il est important de rajouter, enfin, de mettre en évidence un principe moral qui est double. C'est la fameuse expression hébraïque, pleine de moralité, qui est « l'onishkar velonislar ». J'entends par là, je voudrais expliquer pourquoi c'est important. L'onishkar et velonislar, n'oublions pas, ne pardonnons pas. Alors, souvent, certains disent, oui, c'est l'expression d'un mouvement de colère. Pas du tout. Celui qui oublie est incapable de tirer les leçons du passé. Il ne faut pas oublier. Parce que quand on oublie, eh bien, on pêche par rapport à tous les enseignements que la Providence a voulu nous donner à travers les événements historiques. Donc, la première responsabilité morale des personnes conscientes, c'est de ne pas oublier. De plus, de ne pas pardonner. Parce que lorsque l'on pardonne, eh bien, on ne répare pas. C'est-à-dire, pardonner n'est pas toujours une bonne chose que l'on fait à la personne à qui on pardonne. D'après la halakha, il faut pardonner à celui qui vous a fait du mal et qui a fait teshuva de ce mal. Mais s'il continue à vouloir faire ce mal ou qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait, alors lui pardonner, finalement, c'est fauter envers la morale. C'est-à-dire, souvent, on voudrait pardonner, mais on n'a pas le droit. Moralement, c'est interdit. Donc, ce sont des personnalités de haute conscience morale qui ont adopté cette phrase merveilleuse, « l'onishkar velonislar », qui fait partie, si vous voulez, du projet réel de la moralité politique en Israël. Je tiens à rappeler, par exemple, un enseignement très important de Rabbi Yitzhak Abravanel. Vous savez qu'il y a tout un débat dans la littérature rabbinique pour savoir si le régime monarchique est préférable au régime démocratique ou inversement. C'est tout un débat, ça demanderait un cours en soi. Rappelons un point important, Rabbi Yitzhak Abravanel, lui, est parmi ceux qui optent pour la démocratie. Vous savez, c'est un texte très célèbre de Rabbi Yitzhak Abravanel, il est cité... Rabbanel est cité parmi les ancêtres de l'idée démocratique, dans l'introduction à la Constitution américaine. Et Rabbi Yitzhak Abravanel, dans son texte où il défend la démocratie, donne les avantages du régime démocratique. Il dit « Un des avantages du régime démocratique, c'est que le pouvoir change et que les nouveaux venus au pouvoir pourront juger les erreurs de ceux qui étaient avant eux. « Yarkeru et pishai kodmehem » Ils enquêteront sur les méfaits de leurs prédécesseurs. Vous voyez donc, c'est un des grands maîtres d'Israël qui a considéré que un des signes de la moralité en Israël, c'est justement de pouvoir enquêter sur le mal qui a été fait, parce que malheureusement, toujours du mal est fait, et ce mal doit être réparé. Je voudrais vous citer ici également un autre passage de Yonatan ben Uziel, mais cette fois-ci, c'est Yonatan ben Uziel sur la Torah, c'est donc probablement pas le même auteur, mais c'est peut-être porteur d'enseignement pour nos jours. C'est dans la paracha de Ha'azinu que nous lisons à Simchat, non, de Zot Abracha que nous lisons à Simchat Torah. Là-bas, dans un des derniers versets de la Torah, on nous raconte comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe le pays d'Israël avant sa mort. Alors, il y a tout un détail. Il lui a montré le pays de Yehuda, le pays de Naphtali, le pays de Gad. Il lui a montré la mer, etc. Et les Midrashim, et ainsi que le Targum Yonatan ben Uziel, expliquent que toutes ces visions, ce sont des visions prophétiques. C'est-à-dire, ça fait allusion à des choses qui vont se passer dans l'histoire et que Moshe a vues à l'avance lorsqu'il était sur le mont Nebo. Il y a un verset dans lequel il est dit, il lui a montré la plaine de Jéricho, ainsi que la ville des dattiers, jusqu'à la dernière mer. Alors, la dernière Yom Aharon, alors on prend Yom Aharon, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour. Il a montré tout ce qui allait se passer. Alors là, je voudrais à nouveau vous citer, c'est de l'araméen, enfin, vous comprenez tous l'araméen, depuis Ben Hadad, la traduction de Yonatan ben Uziel de ce verset. Veyat melich daroma demithaber im melich tzipona. Il lui a montré le roi du sud qui s'alliait avec le roi du nord, les Habela Yatveara, pour terroriser les habitants du pays. C'est-à-dire, il y a une attaque par le sud, une attaque par le nord. Ve'amonae ou Moavae Yatve Meshra, ainsi que les Ammonites et les Moabites qui sont installés dans la plaine, des Me'ikin Lehon et Israël, qui feront des misères à Israël. Veyat Galvat Talmide Eliyahu, ainsi que l'exil des élèves d'Eliyahu. Des Galvat Minbikata d'Iricho, qui seront renvoyés de la plaine de Jéricho. Veyat Galvat Talmide Elisha, ainsi que l'exil des élèves d'Elisha. Je vous rappelais que Elisha était l'élève de Eliyahu. C'est-à-dire, il y a ici deux générations de maîtres. Il y a les élèves du premier maître et les élèves du fils, du disciple du premier maître, qui sont renvoyés, Minkirvat Diklaya, de la ville des palmiers, Aliede Achuon Bet Israël, par leurs frères de la maison d'Israël, Matan Alfin Gouvrin, 200 000 hommes, Veyat Akat, je ne sais pas de quoi il parle, Veyat Akat Koldar Vedar, ainsi que les malheurs de chaque génération, Ufuranut Armalgos Reshia, ainsi que les méfaits d'Armelus, le méchant, Vesidre Krava de Gog, ainsi que les batailles de la guerre de Gog, cette grande conflagration universelle qui doit se passer à la fin des temps. Il y a d'ailleurs un texte intéressant qui s'appelle Otot Mashiach dans les petits Midrashim, dans lequel on dit que lorsque cette guerre se produira, il y aura comme un soleil qui brillera et qui fera mourir des milliers de milliers de personnes tous les jours, et que les Juifs de l'époque, pour se cacher, pour se protéger de ce soleil, rentreront dans des abris souterrains. Ve'idan Tsahara Rabahu, et lors de cette grande détresse, Michael Yakum Bidra'a Lifaroka, se lèvera Michael, c'est-à-dire l'ange tutélaire d'Israël, avec force pour libérer Israël. Alors vous comprenez, tout ça, ces textes-là sont sibyllins, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais enfin, peut-être que par association d'idées, on pourrait penser à des choses qui nous concernent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Chag Sameach.